Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webcast dédié aux transformations sociales au sein des institutions financières. Je suis ravi de vous accueillir, si nombreux à notre webcast, et je suis particulièrement honoré d'avoir parmi nous un nombre important d'interlocuteurs éminents, à commencer par Axelle Favre, qui sera l'animatrice de nos tables rondes. Axelle est manager au sein du département de conseil spécialisé en développement durable. Et nos quatre panélistes, donc Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale, membre du comité de direction générale et directement rattachée au président du directoire. Bonjour Adrienne. Céline Boyer-Chamard, qui est Chief Sustainable Transformation Officer d'Amundi Asset Management, également membre du comité exécutif d'Amundi. Bonjour Céline, qui est à distance. Pierre-Antoine Balu, associé au sein de nos équipes de conseil pour les institutions financières et en charge des sujets de transformation culturelle. Et Eric Sonopou, qui nous rejoindra pour la seconde table ronde, qui est associé au sein du même département spécialisé dans la gestion des portefeuilles de projets et des programmes de transformation. Alors, l'agenda pour notre webcast qui va durer une heure est le suivant, une première table ronde autour des enjeux pour les collaborateurs, les enjeux sociaux pour les collaborateurs des institutions financières, et une seconde table ronde autour des enjeux sociaux dans les produits et services qui sont commercialisés par les institutions financières. Je rappelle le thème de la webcast, donc transformation sociale au sein des institutions financières, quels impacts et quelles opportunités. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Il y a deux raisons à cela, pourquoi on s'intéresse aujourd'hui au social. La première, c'est que nous sommes dans un contexte de marché du travail extrêmement tendu, avec un certain nombre d'enjeux de rétention et d'attractivité des collaborateurs. Une étude récente de PwC et DiversiDays montre que 86% des actifs s'attendent à ce que leurs entreprises s'engagent davantage pour l'inclusion et la diversité. Et donc, il nous a semblé intéressant d'aborder ces sujets, et notamment autour du partage de la valeur, de la diversité et de l'inclusion, de la santé au travail, et également de l'organisation du temps de travail. Et puis, la deuxième raison, c'est que le S, donc de social, du trigramme ESG est souvent l'oublié. Elle est moins médiatisée que les enjeux climatiques et désormais également moins médiatisée que la biodiversité. Et pourtant, 66% des épargnants s'attendent à ce que leur gestionnaire s'engage sur des sujets sociaux. Et donc, nous allons nous poser les questions suivantes. Quelle typologie de produits et services doivent être mis à disposition des clients? Quelle organisation en interne pour gérer ces nouveaux produits et services? Et quels impacts réels sur la société? Le social est donc au cœur des transformations des institutions financières. Et pour en parler, je laisse la parole à Axelle qui va introduire notre première table ronde. Juste un petit rappel, excusez-moi, vous avez à disposition un chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Nous essaierons d'y répondre en fin de séance si nous avons le temps. Sinon, nous y répondrons individuellement post-webcast. Merci à tous. À toi, Axelle.
Merci, Timothée. Donc, dans cette première table ronde, nous allons nous focaliser sur les attentes sociales des collaborateurs. Comme Timothée l'a précisé, on est dans un contexte aujourd'hui où les collaborateurs ont des attentes très fortes en termes d'inclusion, de diversité, de partage des valeurs, ce qui entraîne des transformations dans les organisations. Et pour cette première table ronde, je vais me tourner vers vous, Adrienne, pour la première question. Concernant la Banque Postale, comment la banque accompagne la transformation culturelle face à ses attentes et ses enjeux?
Oui, alors je crois qu'effectivement, ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, le rôle en particulier du conseiller bancaire est en pleine transformation. Ce rôle de conseiller a été un peu dévoyé finalement, à la fois avec la digitalisation des process et puis aussi avec la standardisation des produits financiers, où finalement tous les produits financiers se ressemblant, le rôle du conseiller était assez peu important. aujourd'hui, face aux enjeux de la transition juste, la transition environnementale, mais aussi sociale, que vous ayez en face de vous un client particulier ou une entreprise, vous devez, en tant que conseiller, être beaucoup plus comprendre beaucoup mieux les enjeux de vos clients, comprendre les changements de leur stratégie, de leur business model. Et donc, ça remet vraiment au cœur du métier de banquier l'importance vraiment du rôle de conseiller. Donc pour ça, nous, on accompagne essentiellement à deux niveaux. D'abord par tout un programme de formation. Donc c'est évidemment important d'avoir notamment un socle de formation sur les enjeux de la transition. Je pense que vous connaissez en particulier la fresque du climat et un certain nombre de formations qui permettent de donner ces bases déjà scientifiques et physiques sur les enjeux climatiques et sociaux, mais ce qui est aussi très important, c'est d'avoir des formations qui sont vraiment dédiées au métier et donc comprendre comment chacun des métiers est en train de se transformer. Donc, nous, on va accompagner, par exemple, les communicants sur de la communication responsable, les analyses crédit sur vraiment comment l'analyse crédit est modifiée par la prise en compte, en particulier, des enjeux sociaux. Donc ça, c'est un élément très important de plan de formation. Et puis l'autre élément important, c'est finalement l'incitation managériale. La Banque Postale est devenue entreprise à mission. Et en tant qu'entreprise à mission, nous avons défini un certain nombre d'objectifs statutaires. Ces objectifs sont retranscrits dans les objectifs de chacun de nos employés. Et leur rémunération est indexée aussi sur ces objectifs afin vraiment d'avoir des collaborateurs qui sont pleinement investis dans notre mission.
Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Céline maintenant. Bonjour Céline, oui. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, parfaitement bien.
Alors, je vais vous poser un petit peu la même question du côté d'Amundi, en tenant compte du fait qu'il y a une dimension internationale chez Amundi avec des aspects culturels aussi spécifiques. Donc, comment vous prenez, Amundi prend part, tient compte des besoins de formation sur les sujets de durabilité des collaborateurs et par ailleurs des besoins en termes de diversité et d'inclusion.
Oui. Alors, désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais ravie de pouvoir participer à cette table ronde sur ces sujets qui sont tout à fait essentiels. Je vais d'abord faire écho à ce que disait Adrienne, parce qu'effectivement, un des grands sujets importants aujourd'hui chez Amundi, c'est la formation et l'accompagnement des collaborateurs pour qu'ils puissent se mettre au service de nos objectifs en tant qu'investisseurs responsables. Et ça nécessite de les accompagner chacun dans leur métier, exactement. Je suis tout à fait en ligne avec ce que disait Adrienne. Je rajouterais peut-être que je trouve qu'un des défis, c'est qu'aujourd'hui, les formations qui sont disponibles, en dehors de celles qu'on peut créer, sont de qualité pas toujours au niveau de ce qu'on attend. Et ce n'est pas une critique des instituts de formation, c'est juste que le sujet est tellement nouveau et bouge tellement rapidement qu'en fait, il est difficile de se sourcer à l'extérieur sur des programmes de formation. Et quand on est, je pense, la Banque Postale ou Amundi, assez en pointe sur ces sujets, on a finalement mieux à faire à développer nous-mêmes ces formations, ce qui est un effort assez important et un investissement important de l'entreprise pour le faire et amener effectivement un contenu qui est adapté à la transformation de chacun des métiers au service pour nous de l'investissement responsable. Donc ça, c'est un gros programme de formation qu'on a en cours et qui est qu'on ne doit pas faire qu'une fois. En fait, il est en place et on doit le mettre à jour très régulièrement. Donc ça, c'est un premier effort d'accompagnement. On retrouve aussi chez Amundi les aspects de rémunération sur les parties variables qui permettent d'aligner les intérêts des différentes parties prenantes et de nos collaborateurs par rapport à notre ambition. Peut-être un autre sujet, alors qu'il est sur un plan assez différent, mais en écho à ce que vous disiez au début sur les attentes des collaborateurs, il y a aussi des attentes sur le sujet de la diversité. Et de l'inclusion, sujet très important sur lequel Amundi travaille pour renforcer sa diversité et son inclusion, avec deux spécificités que j'aimerais mettre en exergue. La première, c'est que vous le rappeliez, on est une entreprise très internationale, présente dans 35 pays. Et finalement, ce sujet de la diversité et de l'inclusion, ce n'est pas un seul sujet qui peut être traité de façon uniforme sur l'ensemble des pays où on est présent. On s'aperçoit qu'il y a énormément de disparité dans l'approche de ce sujet entre des approches plus anglo-saxonnes ou Europe continentale, par exemple, ou asiatique. Et donc, ça nécessite une grande délicatesse, si je peux utiliser ce mot, dans le traitement pour progresser et aller dans le sens des attentes des collaborateurs, qui sont très différentes, en fait, d'un pays à l'autre. Sur ce point spécifiquement, le positionnement que Amundi adopte et qui est tout à fait en ligne avec le groupe Crédit Agricole, c'est avant tout un positionnement de la recherche de l'universalité et de l'inclusion, donc dans une logique, je vais dire, assez française. On est avant tout un citoyen avant d'être membre d'une minorité. Hein. C'est une approche qui est assez différente finalement de celle des anglo-saxons. Donc on travaille en fait en premier lieu sur l'inclusion. Et le point qui nous rejoint par contre avec les milieux anglo-saxons, c'est qu'à un moment donné, il faut de la mesure. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grandes déclarations d'intention. Je pense qu'on a la chance à la Banque Postale ou quand on est dans le groupe Crédit Agricole d'avoir des cultures qui sont naturellement quand même inclusives d'entreprise. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aller mesurer. Et mesurer, en fait, mettre en place des mesures de cette inclusion, c'est un projet qu'on a maintenant, qu'on lance. Dans la logique de ce qu'avait pu faire l'index Moreno, hein, qui commençait à poser les bases de comment faire ça dans un environnement français pour que ça soit compatible avec GDPR, respectueux de la culture des uns et des autres. Donc, c'est un programme qu'on est en train de lancer et qui va prendre du temps, parce qu'il faut prendre du temps pour le mettre en place, parce que lancer un questionnaire pour mesurer l'inclusion, ça peut être perçu comme très intrusif par certains de nos collaborateurs, voire des questions, si on pose des questions sur les origines des personnes, que ce soit sociales, sur les orientations sexuelles, etc., même si c'est anonyme, ça peut être perçu comme une agression ou le fait que l'entreprise se mêle de ce qui ne la regarde pas. Et donc, on va faire ça, mais avec un programme d'accompagnement, de changement culturel aussi qu'il faut mettre en place. Il faut prendre le temps, voilà, faire ça étape par étape. Et c'est notre ambition de mettre ça en place sur 2023.
Merci beaucoup, Céline. C'est très intéressant, votre témoignage, parce qu'effectivement, on est sur des sujets assez délicats et en même temps avec beaucoup d'enjeux. Pierre-Antoine, en tant que spécialiste des transformations culturelles et par rapport à ce qui a été dit par nos intervenantes, est-ce que vous pourriez nous partager les facteurs clés de succès de transformation de ce type ?
Merci, Axel, pour cette question. Alors, je pense que c'est un vrai bon sujet dans la mesure où, en fait, le premier risque, me semble-t-il, dans les institutions financières concernant ces sujets d'ESG, c'est d'être pris comme finalement un sujet de compliance. Et donc, du coup, enfermé dans une logique de reporting où, en fait, on subit quelque chose qui est en fait un facteur de complexité additionnel plutôt que véritablement essayer de susciter une nouvelle adhésion ou de nouveaux comportements. Donc, ça présuppose d'avoir une approche un peu dite systémique, c'est-à-dire à la fois d'avoir des éléments qui sont un peu process, organisationnel, avec des KPI et des metrics, mais en même temps, donc, tout un substrat, je dirais, en fait, comportemental, qui sont liés à, finalement, des traits culturels qu'on veut essayer de faire, je dirais, renforcer au sein de l'organisation. Donc, on a pas mal d'études qui montrent quand même qu'il y a un vrai défi. C'est le défi que je qualifierais de l'authenticité, en fait. Où on s'aperçoit que quand on pose la question à des dirigeants sur l'incarnation finalement du purpose, de la raison d'être, 80% disent oui, dans notre entreprise, on est complètement en ligne, majoritairement, en fait, on agit de façon cohérente par rapport à notre intention et par rapport à notre raison d'être. Et quand on pose la question finalement à des collaborateurs, en fait, on tombe à 54%. Et quand on est en dessous des strates managériales, ça va en dessous de 30%. Donc il y a ce hiatus quand même très très important de perception, et donc il y a un gap finalement à franchir, et ça présuppose d'abord que les dirigeants soient eux-mêmes très exemplaires et incarnent véritablement ces éléments-là, et qu'on soit dans une logique très participative. Alors c'est vrai, la formation est un des premiers leviers, parce qu'il faut sensibiliser, donner les armes, il y a tout un enjeu d'upskilling, mais en même temps essayer aussi de faire en sorte que les équipes puissent proposer des actions, deviennent acteurs finalement, parce que vous savez, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet IKEA. Grosso modo, quand j'ai contribué à construire quelque chose, j'y tiens plus particulièrement. Donc, du coup, les rendre beaucoup plus acteurs par rapport à ça. Et puis, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives chez nos grands clients pour essayer de repenser un peu le contrat social, en fait, à l'aune finalement des sujets ESG, aller vers ce qu'on appelle des pactes d'engagement avec des enjeux donc, de réciprocité, où finalement, les dirigeants vont prendre des engagements, les managers vont prendre des engagements vis-à-vis de leurs équipes, et les équipes prennent des engagements vis-à-vis finalement de l'organisation et des parties prenantes extérieures. Donc ça, je trouve que ce sont des démarches qui sont assez intéressantes et justement qui jouent sur l'inclusion et créent une dynamique collective.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, c'est très important cette notion de culture de l'engagement. Et donc, c'est important d'avoir une incitation managériale, mais rendre effectivement les collaborateurs acteurs, c'est vraiment clé. Je crois que, par exemple, le statut d'entreprise à mission donc, que nous, on a adopté à la Banque Postale permet notamment aussi cette dimension acteur. D'abord parce que dans le comité de mission de l'entreprise à mission, qui est en fait un comité des parties prenantes qui surveillent la mission, il y a des collaborateurs. Donc, nous, on a choisi que la loi impose un collaborateur. On a choisi qu'il y ait deux collaborateurs, un homme et une femme, qui ont été tirés au sort parmi des volontaires, donc qui, du coup, font vraiment remonter aussi les enjeux des collaborateurs. Et puis, on a aussi souhaité associer les élus dans une commission spécifique, donc paritaire, entre des élus et des membres du comité de mission pour que aussi les élus puissent participer aux travaux du comité de mission. Donc ça, je crois que c'est un élément qui peut être intéressant. Un autre élément que beaucoup de grands groupes hein, mettent en place et qui, chez nous, marche très bien, c'est la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs qui permet vraiment, au sein de chacune des directions, chacun des métiers concernés par la transformation, c'est-à-dire vraiment la totalité de l'entreprise, d'être vraiment ceux qui sont référents sur la mise en œuvre de la stratégie d'engagement citoyen. Donc nous, à la direction de l'engagement citoyen, on va les animer, on va évidemment leur donner un certain nombre de contenus, d'informations, leur proposer aussi des formations spécifiques pour eux. Mais eux, ils sont vraiment en charge justement ensuite de mettre en œuvre la stratégie d'engagement dans leurs différentes équipes et d'être les référents. Et puis, peut-être un dernier élément aussi que je peux partager. La Banque Postale, notamment, on a Microdon, qui est une de nos filiales, que vous connaissez sans doute, hein, puisque c'est cette entreprise qui vous permet de faire l'arrondi en caisse quand vous allez faire vos courses. Microdon a développé aussi une plateforme d'engagement pour à destination en fait des directions de ressources humaines des grands groupes, qui permet en fait d'agréger tous les éléments d'engagement à disposition des collaborateurs. Donc, par exemple, le mécénat de compétences, par exemple, la possibilité de faire un arrondi sur salaire, donc qui est comme l'arrondi en caisse, mais sur votre salaire. Et cette plateforme vraiment permet aussi voilà, aux collaborateurs de voir l'ensemble des éléments qui sont disponibles au sein de son organisation pour s'engager et finalement de réduire cette dissonance cognitive qu'on trouve chez beaucoup de collaborateurs et notamment les plus jeunes entre leur volonté de s'engager et puis leur métier où ils ont un peu du mal parfois à se reconnaître.
Merci beaucoup, Adrien.
Si je peux intervenir juste sur ce point, je pense que deux choses que je voulais rajouter. Effectivement, cet engagement des personnes et leur mise en responsabilité, en fait, pour prendre part au projet d'entreprise est essentiel. Et ce que vous disiez avant sur plus on descend dans les strates, plus on s'aperçoit de la déconnexion par rapport au projet d'entreprise et au projet sociétal, c'est quelque chose qu'on observe aussi chez Amundi. C'est pour ça que dans la formation, je pense qu'il y a un des enjeux qu'on n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure, c'est aussi c'est la formation de tout le monde sur le sujet, par exemple, de l'investissement responsable. Je pense qu'un des changements pour nous, c'est de passer de la formation de ceux qui sont en front line et qui en ont vraiment besoin à former aussi et à donner la matière aux gens qui sont au middle office et qui traitent du rapprochement d'opérations, donc qui en fait n'ont pas besoin de connaître le projet d'entreprise dans leurs tâches au quotidien. Et là, on veut vraiment eux aussi les embarquer pour qu'ils comprennent comment ce qu'ils font contribue à ce projet d'entreprise. Donc, on a un objectif de 100% de formation de l'ensemble des collaborateurs au sujet de l'investissement responsable, même si, encore une fois, tous n'en ont pas besoin dans leur quotidien. Ça, je pense que c'est un point assez important. Et puis, l'autre, en écho aussi sur l'initiative individuelle, il y a du top-down, il y a la raison d'être, il y a tout ce qu'on fait pour irriguer nos équipes. Et puis, il y a aussi les initiatives spontanées qui sont quelque chose qu'on essaye d'encourager au maximum. On voit que dans les différents pays, et c'est vrai dans beaucoup d'entreprises, hein, donc rien, je pense, de spécifique à Amundi, mais il y a énormément de volonté au niveau local d'agir, de contribuer à des associations sur voilà, le territoire. Et ces initiatives-là, elles font partie aussi de la dynamique d'entreprise qui permet de contribuer au projet sociétal. Alors certes, là, on n'a pas de métriques, on n'a pas de KPI, on ne va pas dire, voilà, ça contribue à ça, notre réduction d'émissions carbone, si je parle environnement ou ça sur la diversité. Mais cette impulsion spontanée, il faut l'accompagner, la montrer, parce que je pense qu'aussi, elle est très motivante pour les employés.
D'accord, merci beaucoup. Donc finalement, plusieurs leviers, vous constatez plusieurs leviers pour amener ces sujets-là et les faire grandir.
J'avais une question, moi, parce que vous avez tous mentionné la formation et on sait que le retour sur investissement n'est pas forcément rapide. Est-ce que vous avez vécu comme un challenge le fait d'aller d'abord chercher des budgets de formation sans que forcément le retour sur investissement soit là directement? Est-ce que vis-à-vis de votre direction générale, les discussions ont été longues ou est-ce que finalement la logique de formation était peut-être la première pièce à l'édifice de cette transformation importante?
Je crois que alors nous de notre côté, clairement, la volonté managériale fait absolument pas défaut et en tout cas, même d'un point de vue budgétaire, les formations sont vraiment priorisées. Donc, je dirais pas que la difficulté, elle est là. En revanche, effectivement, on a une difficulté et on le voit, nous en particulier, vis-à-vis de nos conseillers bancaires hein, qui sont des postiers, hein, qui sont dans nos différents bureaux de poste, qui sont face, eux, finalement, à une accumulation de formations. Donc, évidemment, l'industrie financière et en particulier les banques, un secteur très réglementé dans lequel il y a énormément de formations déjà réglementaires, donc qui prennent déjà beaucoup de temps en fait à nos conseillers. Donc c'est vrai que rajouter entre guillemets des formations sur les dimensions environnementales et sociales, il y a une difficulté de bande passante, ce qui fait que, et donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez Céline au début sur la difficulté à avoir des formations finalement de qualité, parce qu'en fait le sujet n'est pas vraiment sur le contenu, mais surtout vraiment une formation qui doit être complètement adaptée, encore une fois, au métier, adaptée à la personne finalement qui va la faire et vraiment la plus personnalisée possible. Et donc en fonction vraiment des personnes, et vous évoquez Céline des personnes du middle office ou enfin, même des personnes qui sont face aux clients, que ce soit un conseiller dans un bureau de poste ou nous, un conseiller dans le réseau entreprise, on va avoir des degrés de profondeur de l'information très différents en fait à transmettre. Donc, c'est vraiment des formations très, très personnalisées et qui nécessitent en fait que l'entreprise se penche vraiment sur le sujet, éventuellement avec un prestataire, bien sûr, mais en tout cas, pour que ce soit complètement imbriqué à la façon de fonctionner aussi de ses collaborateurs.
Peut-être quelques éléments aussi en fait en rebond par rapport à ce que vous dites sur la formation. Je pense qu'il y a la formation de type sensibilisation pour créer finalement une prise de conscience collective, je dirais éclairer les consciences, et développer un peu finalement un peu plus des praticiens quelque part finalement. Donc c'est ces sujets-là. Et puis après il y a la formation qui est plutôt de la montée en compétences, c'est-à-dire qu'en fait, avec donc, le SG, il y a des métiers qui vont évoluer considérablement dans le contenu. Et donc, du coup, se pose la question finalement donc, de comment est-ce qu'on appréhende les évolutions, les compétences et les nouvelles « skills » entre guillemets en fait, à appréhender pour certains métiers, dont finalement l'essence même est amenée à évoluer. Certains vont se réduire, d'autres vont s'étoffer. Et donc, voilà, je pense que ça fait partie des éléments à prendre en considération. Et puis deuxième point par rapport à ce que vous avez dit, moi, vous avez parlé des ambassadeurs, je souscris complètement. Je pense qu'en fait, dans une organisation, il y a la voie formelle, le cascading, qui va être effectivement très important de la part de la hiérarchie. Il y a ce qu'on appelle, nous, les leaders informels, en fait, donc qui sont des gens qui sont un peu des influenceurs, en fait, comme si on dans les réseaux sociaux, et qui sont des gens qui sont regardés par tous, qui ne sont pas forcément ceux qui ont un grade ou en tout cas un poids hiérarchique fort, mais qui, par leur connectivité, par finalement le fait que tout le monde va les voir quand ils ont un problème, etc., sont des gens qui vont en fait être un point de repère dans l'organisation Et leur comportement à eux, la façon dont ils vont agir, va influer finalement sur le reste de l'organisation. Donc, il faut essayer de repérer ces gens-là, les former, les sensibiliser et en faire des ambassadeurs.
Et peut-être en complément, donc je rejoins, il y a une vraie volonté de la direction générale sur ces sujets, donc c'est pas ça le défi effectivement. Par rapport à ce que disait Pierre-Antoine tout à l'heure en évoquant qu'on prend souvent le sujet sous l'angle de la conformité, je trouve que un des challenges, c'est de faire de cette formation une formation mobilisatrice et pas une autre formation, comme disait Adrienne, pour checker les cases de la conformité. Parce qu'effectivement, nos collaborateurs dans nos professions réglementées sont inondés de formation. Et il faut trouver un positionnement de cette formation, dans notre cas, l'investissement responsable, qu'on doit faire. Il y a des contraintes réglementaires, donc il y a une partie qui est de la conformité, mais pas que, puisque c'est notre projet sociétal auquel on veut former nos collaborateurs. Et donc, il faut trouver un angle qui permet de faire de cette formation quelque chose d'aspirationnel et pas juste une autre formation à faire. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on travaille avec la direction générale, avec des relais dans les business lines, influenceurs ou voilà, promoteurs. On construit aussi les formations avec les business lines pour que ça soit quelque chose à leur service et pas quelque chose qui est une autre formation de conformité à faire d'ici la fin de l'année, quoi.
Très bien, merci, merci beaucoup, merci à tous pour ces échanges enrichissants de cette première table ronde. Donc je retiendrai un certain nombre de thèmes, hein. Donc évidemment la formation et la formation pour tous, à tous les niveaux, des aspects un peu plus pratiques pour impliquer les collaborateurs au quotidien, dans le comité d'entreprise à mission, et également la nécessité de respecter l'engagement personnel des collaborateurs. Et puis, le sujet de la diversité et de l'inclusion, qui est un sujet compliqué à traiter dans certaines cultures, je dirais, avec une question de sensibilité des informations et donc une difficulté de mesurer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises. Merci encore. Nous allons passer donc à la seconde table ronde. Axel, je te laisse l'introduire autour des enjeux de transformation sociale dans les produits et les services offerts aux clients.
Merci beaucoup, Timothée.
On avait identifié d'une part les enjeux sociaux pour les collaborateurs, mais également les enjeux liés aux produits et services des institutions financières. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les produits à impact sont majoritairement des ambitions environnementales, souvent climatiques, de plus en plus liées à la biodiversité. Et les aspects sociaux sont un peu encore à la marge, alors même qu'on voit que finalement, du côté des épargnants, il y a des attentes et une volonté de placer ces sujets vraiment en priorité, que ce soit en termes de bien-être au travail, de santé, d'éducation. Et ça m'amène à vous poser une première question, Céline. Amundi investit massivement dans des fonds à impact social. Comment voyez-vous l'appétit des clients pour ce type de produit? Et est-ce que vous avez d'autres initiatives à vocation sociale qui sont programmées pour les prochains mois ou prochaines années?
Alors, je vais d'abord commencer par vous rejoindre sur le fait que la priorité chez nos clients aujourd'hui reste le E de l'ESG. Et dans le E, le climat. Enfin, c'est vraiment la préoccupation première. Alors, avec, je dirais, un premier niveau social qui est pris en compte dans l'analyse des controverses. Donc, on veut des fonds qui sont, par exemple, qui favorisent la transition climatique. Et on veut quand même s'assurer qu'il n'y a pas des grosses controverses sur la dimension S. Donc, ça, c'est la la couche minimale, le filtre minimum de la transition juste, on va dire. On a ce qu'on voit se développer quand même de plus en plus au-delà de juste l'analyse des controverses, c'est s'assurer qu'on combine dans des fonds qui sont de transition juste, la partie transition climatique avec des best practices, des meilleures pratiques sur le social. Et donc, à ce titre, Amundi a par exemple des fonds transition juste qui respectent à la fois les engagements côté climat avec des objectifs de décarbonation des portefeuilles et puis s'assurer qu'on mesure, hein, on a un score propriétaire qui nous permet de mesurer que sur les dimensions sociales, on est effectivement à un niveau best in class pour les entreprises qui sont sélectionnées dans le portefeuille. Donc ça, c'est vraiment cette approche transition juste. Il y a par ailleurs un autre type de produits qui sont des produits à fonds à impact social ou avec des stratégies sociales centrées sur le social. Ça existe et on en a dans notre offre, je pourrais vous en citer quelques exemples. La réalité, c'est que pour nous, la demande aujourd'hui reste limitée sur ces fonds. Pourquoi ? Je pense que d'abord, c'est des fonds qui sont… on manque aujourd'hui de cadre réglementaire sur ces fonds. Hein. On a du mal à faire une taxonomie verte. On a plus ou moins abandonné la taxonomie sociale. Hein. Donc, on n'a pas de cadre réglementaire. On a un deuxième… obstacle, on va dire, au développement de ce type de produit, pour les fonds en tous les cas, qui est que les données sur le social sont très limitées. Elles ne sont pas réglementées, elles ne sont pas standardisées, elles sont limitées. Puis la troisième chose, c'est ce qu'on appelle social entre un pays et un autre. C'est très, très différent. Hein. Le social, je ne vous apprendrai rien sur le droit du travail aux États-Unis ou en France ou en Europe. Donc, on a cette difficulté pour développer des produits qui peuvent être un peu universels sur cette dimension sociale. Alors, il n'en demeure pas moins que Amundi a des fonds thématiques et donc on va retrouver dans sa gamme des fonds qui vont être focalisés sur certains objectifs de développement durable des Nations Unies autour du social, que ce soit sur l'éducation, sur par exemple un fonds qui s'appelle France Emploi, qui est labellisé ISR chez Amundi, qui va aller investir sur des entreprises qui développent de l'emploi. Voilà, juste pour vous citer deux exemples. Et puis une troisième catégorie, hein, donc la transition juste, donc environnement avec du filtre social, les fonds impact social ou avec une stratégie orientée autour du social. Et puis on a tout ce qui est l'épargne sociale et solidaire, alors qui pour le coup est vraiment conçu avec comme un fonds à impact social. Chez Amundi, c'est le fonds Finance et Solidarité hein, qui a plus de 400 millions d'encours sous gestion. Et en ça, Amundi est leader sur ce sujet en France. Et là, l'objectif est vraiment d'investir dans des sociétés dont l'objectif premier est de prendre soin des personnes ou prendre soin de la planète. Donc, on va retrouver des choses autour de l'emploi, de l'habitation sociale ou des soins, par exemple. Donc, voilà un peu les trois paquets. Mais le constat, quand même, si on prend un pas de recul, au-delà de cette épargne sociale et solidaire qui a été aussi favorisée par la loi, hein, par la réglementation, si on prend un pas de recul, nos grands clients aujourd'hui restent très, très focalisés sur le climat.
D'accord, merci beaucoup. C'est très clair et je vous remercie. Et Adrienne, du côté de la Banque Postale, vous avez une mission particulière sur la clientèle fragile. Mm-hmm. Et est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail ?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que pour la Banque Postale, les enjeux sociaux font partie de son ADN et en fait font partie, je dirais même, des raisons de sa création. La Banque Postale, si je fais un petit peu d'histoire, c'est la banque la plus jeune hein, aujourd'hui des six principales banques en France. Et quand la Banque Postale a été créée en 2006, il n'y avait pas vraiment besoin d'une nouvelle banque en France, honnêtement. En revanche, il y avait besoin d'une banque territoriale, d'où la nécessité d'où l'inclusion évidemment avec le réseau postal, et aussi d'une banque accessible et inclusive. Donc, 3 ans après la création de la banque postale, en 2009, l'État a donné à la Poste et ensuite à la banque postale, puisque la banque postale est filiale à 100% de la Poste, une mission d'accessibilité bancaire, c'est ce que vous évoquiez, qui permet aujourd'hui à 1,5 million de personnes d'utiliser le livret A comme en fait un véritable porte-monnaie électronique et finalement en fait une entrée, enfin un moyen d'inclusion bancaire essentiel. Et quand je vous parle de ces 1,5 million de personnes, je parle vraiment de gens qui seraient complètement exclus du système bancaire autrement. Je parle de sans domicile fixe, je parle de migrants, je parle de gens du voyage qui ne pourraient absolument pas utiliser même aujourd'hui les comptes digitaux. Et donc ce livret A, qui pour vous est un outil uniquement d'épargne, hein, on peut juste percevoir l'épargne sur le livret A, eux, ils l'utilisent, ils peuvent percevoir un certain nombre de revenus qui sont encadrés par la loi, prélever un certain nombre de frais et puis surtout faire des retraits en bureau de poste d'argent. Et puis ensuite, souvent, on a certains clients qui, le matin, vont récupérer 15 euros sur le livret A et puis le soir, reposent les 10 euros pour pas que cet argent soit volé dans la nuit. Donc, c'est vraiment cette réalité-là qui explique d'ailleurs la création de la banque postale. Et puis, au-delà de ces clients en accessibilité bancaire, on accompagne aussi aujourd'hui 1,5 million de clients qu'on appelle en situation de fragilité financière. C'est une définition qui est encadrée aussi par la loi. On a 30% aujourd'hui du part de marché de cette clientèle en situation de fragilité financière. Et on l'accompagne de deux façons. On l'accompagne d'abord par une offre dédiée, donc en particulier une formule de compte simplicité à 1 euro avec un plafonnement des frais d'incident bancaire. Mais aussi, et ça je pense que c'est très important sur la dimension sociale, par un accompagnement dédié. On a une plateforme d'écoute avec des conseillers qui sont vraiment formés, alors à la fois déjà à la dimension d'empathie, c'est très important quand vous avez des gens qui ont un coup dur, qui sont dans une situation extrêmement compliquée, d'avoir les mots pour les accueillir, pour les accompagner. Donc on parlait de formation tout à l'heure, là aussi ce sont des formations très spécifiques sur la prise en compte de cette clientèle, mais aussi des formations sur la dimension réglementaire, puisqu'ils doivent accompagner les clients dans potentiellement récupérer un certain nombre d'aides sociales. Vous savez qu'en France, il y a plus de 30% de non-recours aux aides sociales, hein, ce qui est un vrai sujet. Donc, ils ont une vraie connaissance justement de ce à quoi le client est éligible. Et puis aussi, une connaissance importante de l'écosystème associatif qui souvent, nous, va prolonger l'action de la banque postale. En particulier, par exemple, sur le microcrédit personnel. Le microcrédit personnel, c'est permettre, par exemple, un crédit de 500 euros à une personne qui a besoin d'acheter un ordinateur. Et donc, nous, la banque postale, on ne fait plus de microcrédit personnel, mais en revanche, on a un partenariat avec une association, Créasol, et nous, on va instruire le dossier et c'est Créasol, derrière, qui va porter le coût du risque sur le microcrédit personnel. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'historique et l'ADN de la banque postale sur la clientèle fragile. Après, si j'élargis un peu le scope des produits financiers, je rejoins complètement ce que vous avez dit, Céline, sur l'appétence plus limitée des clients en matière de produits d'épargne sur le social. On a aussi un fonds similaire, enfin, qui peut être comparé au fonds que Céline a cité chez Amundi, par exemple un fonds en partenariat avec la Fédération internationale des droits de l'homme. Mais c'est vrai qu'on voit que la demande en matière de clients particuliers, elle est assez limitée. Le sujet, si je termine là-dessus, il est plus différent sur la clientèle entreprise, où là, nous, la Banque Postale, on est aujourd'hui d'ailleurs premier prêteur des hôpitaux publics et également aussi premier prêteur des collectivités locales. Et donc, en particulier, on a développé des prêts sociaux donc qui sont un peu l'équivalent des prêts verts alignés sur la taxonomie et qui sont des prêts qui sont vraiment destinés à financer des équipements sociaux, par exemple la construction d'une crèche, par exemple la rénovation d'équipements sportifs pour les collectivités locales. Et puis on a aussi, pour terminer, un accompagnement des entrepreneurs qui sont une dimension importante aussi dans l'écosystème via notre filiale KissKissBankBank qui permet de faire du crowdfunding.
D'accord, merci beaucoup. Erickson, en tant que spécialiste des grandes transformations, d'enjeux multiples, quels sont pour vous les facteurs clés de succès pour arriver à transformer les institutions financières sur ces sujets à impact social?
Alors, merci Axel. Donc c'est une très très bonne question, hein, comme on a coutume de le dire dans notre métier. La stratégie, c'est important, mais les bénéfices sont apportés par l'exécution. Et dans tous les grands changements, le mode projet reste, et je pense restera pour longtemps encore, la meilleure manière d'accompagner justement ces grandes transitions et s'assurer qu'au-delà des grandes idées et des grandes trajectoires, les organisations parviennent à atteindre leurs objectifs. Donc, je citerai un certain nombre de facteurs clés de succès qu'on a l'habitude de rencontrer sur des projets de cette nature. Alors, il n'y a pas de raison, hein, c'est, quelle que soit finalement la nature du projet, que ce soit un projet réglementaire, un projet qui permette de lancer un nouveau produit, un projet qui réorganise une direction ou qui permette à l'organisation de créer de l'efficacité. On passe très souvent par un certain nombre d'étapes qui permettent justement à ces initiatives d'augmenter leurs chances de succès. La première, et elle a un rôle particulièrement important aujourd'hui avec la profusion justement de toutes ces initiatives que les organisations lancent, c'est la priorisation. On ne se rend pas compte, mais alors je discute beaucoup avec des clients qui sont responsables de transformation d'entreprise ou qui sont en charge de piloter le portefeuille d'investissement. Et on se rend compte qu'il y a souvent une surestimation de la capacité de l'organisation à délivrer ses projets. Donc, savoir choisir, c'est un premier élément important pour pouvoir focaliser l'entreprise sur quelques initiatives pour lesquelles, justement, il est critique pour l'organisation d'évoluer. Donc, le premier sujet, c'est la préparation. Le deuxième, je pense à l'alignement. Sur des projets et des initiatives aussi complexes que les sujets dont on parle, c'est absolument important que déjà le projet, l'initiative ou le programme soit parfaitement aligné avec la stratégie d'entreprise. Ça paraît être du bon sens, mais on se rend compte encore trop souvent que dans certaines organisations, certains projets ne couvrent pas nécessairement et ne servent pas nécessairement ou pas suffisamment les objectifs stratégiques. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est l'alignement des parties prenantes sur des projets qui peuvent embarquer à la fois la direction financière, la direction des ressources humaines, s'assurer avant de lancer effectivement le programme que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, sont bien d'accord sur la vision, les objectifs et les bénéfices attendus, c'est aussi un élément clé. Comme je le disais tout à l'heure, un programme, quelle que soit sa nature et quel que soit l'objectif qu'il veut atteindre, reste un véhicule de changement. Et donc, il doit faire l'objet d'une structuration, quelle que soit la méthodologie qu'on emprunte, il doit être organisé en tant que tel, c'est un véhicule qui doit avoir sa propre existence. Et donc, tous les éléments liés à la façon dont on structure, qu'on organise ce programme, qui on met à la tête, comment est-ce qu'on planifie justement le plan de travail, quel horizon on se donne, quelle feuille de route, ça reste aussi des éléments fondamentaux pour la réussite du projet. J'en citerai deux derniers, le leadership, parce que c'est bien de lancer les projets, mais c'est encore mieux de les soutenir tout au long. Et plus les programmes sont complexes, plus on a besoin tout au long du programme d'avoir le soutien de la direction et des différentes parties prenantes, d'avoir aussi un leader qui incarne un peu ce changement, que ce soit le sponsor ou le responsable du programme. Et puis, rien ne peut se faire sans embarquer les équipes et donc s'assurer qu'effectivement, au plus près des collaborateurs, les messages sont bien passés, sont bien compris et que l'entreprise dispose aussi au niveau de ses collaborateurs du soutien et d'un certain nombre d'ambassadeurs, on en parlait tout à l'heure, pour justement permettre au programme de délivrer, d'atteindre ses objectifs. C'est aussi un élément particulièrement important.
Merci beaucoup. Par rapport à ce qu'a dit Erickson et le statut d'entreprise à mission de la Banque Postale, ça doit sans doute résonner parce que c'est un projet d'une ampleur incroyable et qui nécessite ensuite une mise en œuvre et, oui. dans les métiers.
Alors absolument, c'est vrai que l'adoption du statut d'entreprise à mission, c'est d'abord une étape juridique, hein, puisqu'on modifie les statuts de l'entreprise en y incluant la raison d'être et puis un certain nombre d'objectifs. Mais vous avez raison, c'est surtout ensuite la vraie mise en œuvre de ces objectifs et de cette mission qui passe d'abord par l'animation vraiment d'une gouvernance spécifique et en même temps intégrée à la la gouvernance du reste de l'entreprise. Donc, c'est un sujet aussi sur lequel l'entreprise à mission, on apprend en marchant. Hein. Il y a assez peu de grands groupes aujourd'hui qui ont adopté le statut d'entreprise à mission. Donc, nous-mêmes, on se cherche et puis on discute beaucoup avec les autres entreprises à mission au sein de la communauté des entreprises à mission. Mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est d'avoir cette gouvernance complètement intégrée à la gouvernance de l'entreprise et en même temps avec ce regard externe du comité de mission, ce comité des parties prenantes. Donc nous, le président du directoire de la Banque Postale est membre du comité de mission. Donc c'est lui qui rend compte au reste de la gouvernance et au conseil de surveillance des travaux de la mission. Et l'autre élément qui est très important aussi en lien avec la gouvernance, c'est, vous parliez de leadership, c'est aussi important justement sur la partie comité de mission. Nous, notre comité de mission est présidé par Natacha Mala, qui est aujourd'hui doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po Paris, ancienne banquière centrale, macroéconomiste spécialiste sur la dimension bancaire. Donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir quelqu'un qui connaît aussi bien le métier bancaire pour justement animer cette mission et montrer qu'on est vraiment sur un sujet de transformation du business model et pas juste quelque chose qui est à part. Donc, il y a vraiment l'animation de cette gouvernance qui est très importante. Et puis ensuite, dans la mise en œuvre de la mission, en fait, on a développé un certain nombre d'indicateurs. D'ailleurs, notre rapport du comité de mission sera publié la semaine prochaine. Donc, je vous invite à regarder notre premier rapport. Donc, on a publié un certain nombre d'indicateurs et surtout qu'on suit, donc avec un plan d'action défini. C'est un peu des mini-projets avec la méthodologie que vous avez décrite. Et puis, surtout, des métiers qui sont responsables de chacun de ces indicateurs pour les suivre et pour vraiment s'assurer que l'ensemble de l'organisation est en marche pour atteindre la mission.
Merci beaucoup. C'est très, très clair et très intéressant. Céline, est-ce que vous voulez intervenir également en tant que dans votre rôle de sustainable Chief Sustainable Transformation Officer?
Oui, peut-être en réaction sur le sujet de la nécessité du leadership et de placer ces projets de transformation au bon niveau dans l'entreprise. Et ça va faire écho aussi à ce que disait Adrienne sur avoir les bons comités bien intégrés dans la gouvernance de l'entreprise. Ce n'est pas un projet à côté, c'est au cœur de l'entreprise. Et c'est vrai que aujourd'hui, chez Amundi, on est structuré, que ce soit au niveau du conseil d'administration, on n'a pas juste un comité stratégie, mais on a un comité stratégie et RSE, que ce soit au niveau de la direction générale, où on a des comités qui sont à la fois des comités dédiés sur notre projet sociétal, donc sur l'investissement responsable, ou sur la RSE. Pour nous, la partie RSE, c'est tout ce qu'on fait sur nos opérations propres, en dehors des portefeuilles. Et donc, on a deux comités, mais qui sont présidé par notre CEO Valérie Baudson et qui sont vraiment au cœur de la réflexion stratégique. Et pour travailler sur ces sujets depuis plusieurs années, on a vraiment eu un glissement entre un moment où on avait des projets qui étaient structurés, certes dans l'entreprise, mais pas forcément positionnés au bon niveau, et maintenant des projets qui sont complètement intégrés dans la plupart des entreprises, que ce soit au niveau évidemment du conseil d'administration ou de la direction générale. Alors, dans notre cas, sans aller vers jusqu'à l'entreprise à mission, mais en tous les cas, positionnés au cœur des réflexions stratégiques et du projet de l'entreprise, ce qui est le seul moyen de vraiment changer, en fait. Sinon, ça reste quelque chose à côté et pas quelque chose au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est aussi dans mon rôle de contribuer, d'animer ces comités pour s'assurer que la transformation soit, pour reprendre un terme un peu un buzzword, mais soit à l'échelle et pas seulement l'affaire de chacun. Et peut-être juste un dernier commentaire, je trouve que dans les dimensions ESG, la dimension G, la dimension E sont portées à l'échelle par l'entreprise maintenant, ou en tous les cas les formations, la sensibilisation, les formalisations qu'on développe, qu'on déploie tous, vont dans des logiques de projet à l'échelle. Sur le social, mon constat, c'est qu'on est plus sur des actions ciblées, des équipes dédiées. Nous, notre fonds épargne solidaire, c'est une équipe qui est un peu à côté. On n'est pas complètement dans le core business, même si on a des fonds thématiques dans le core business. Mais vraiment, le social a une approche différente, plus géographique, plus locale par rapport au climat, où on est dans des grands projets de transformation à l'échelle du groupe.
Oui, absolument. Je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai que la dimension méthodologique, en particulier aussi sur le social, est aujourd'hui inexistante. Vous avez parlé, Céline, hein, de la taxonomie sociale sur laquelle on va mettre beaucoup de temps sans doute à s'aligner. Effectivement, cette dimension locale, elle est très importante. Nous, on développe un indice d'impact global. Alors, pourquoi on l'appelle global? Justement parce qu'il est à la fois environnemental et puis environnemental dans toutes ses dimensions, hein, donc climat, biodiversité, aussi pollution de l'air. Et on essaye d'introduire aussi un certain nombre de critères sociaux. Et c'est vrai qu'on voit la difficulté, bah, évidemment, d'obtenir ces données et même la difficulté finalement de comprendre un peu leur pertinence. On voit bien que dans l'acceptabilité du sujet, même par les métiers, c'est assez clair pour eux, évidemment, les indicateurs environnementaux et en particulier le lien avec nos trajectoires de décarbonation. On est plus challengé sur les dimensions sociales, même si on se rend bien compte que c'est absolument nécessaire d'innover sur ce sujet et finalement d'avancer, même si la réglementation n'est pas là aujourd'hui, pour justement garder cette longueur d'avance.
D'accord. Et en parlant de réglementation, est-ce que la CSRD ne va pas faciliter justement cette mesure que vous mentionnez toutes les deux?
Oui, absolument. Alors ça, c'est sûr que les données qui vont être disponibles à partir de 2025, hein, mais sur quand même un très large périmètre d'entreprise, vont permettre d'alimenter effectivement nos analyses, y compris sur la dimension sociale. Après, donc c'est les entreprises au-dessus de 250 salariés qui vont être soumises à la CSRD. Nous, on a beaucoup d'entreprises, de PME en particulier, même très petites entreprises qui ne vont pas du tout être soumises à la CSRD, qui ne vont pas publier ces informations. Donc, tout le sujet, c'est comment on s'organise, d'ailleurs, au niveau aujourd'hui des banques françaises pour essayer de collecter cette donnée précise. Et en fait, dans ce rôle de collecte, et je reboucle avec peut-être ce que je disais en introduction sur le rôle du conseiller bancaire, c'est pour ça que le conseiller bancaire devient finalement vraiment l'accompagnateur aussi dans la stratégie pour ces petites entreprises qui, généralement, n'ont pas du tout les moyens justement de prendre en compte ces enjeux, mais qui finalement aussi paradoxalement, quand elles s'y mettent, c'est plus simple qu'un grand groupe très diversifié avec de multiples activités et soumis eux-mêmes aussi à toute une série de réglementations plus ou moins alignées. Donc voilà, il y a un vrai rôle des banques pour accompagner la stratégie environnementale et aussi sociale des entreprises, et en particulier des toutes petites entreprises.
Je voudrais revenir quelques minutes sur quelque chose qu'Erickson a mentionné sur l'importance de la priorisation. Et on dit souvent que choisir, c'est renoncer. J'entends aussi vos commentaires hein, sur la priorité, enfin une certaine priorité donnée aux enjeux climatiques, vu leur urgence, une certaine priorité qui arrive sur la biodiversité. Est-ce que vous avez le sentiment dans votre quotidien, Adrienne, vous disiez que vous souhaitez quand même continuer à innover sur les aspects sociaux, est-ce que vous avez le sentiment dans votre quotidien, dans les messages que vous passez à vos équipes, à la direction générale, qu'on laisse quand même un petit peu le social de côté, malgré nous et malgré toute notre bonne volonté, il y a des problèmes de données, est-ce qu'on renonce ou est-ce qu'on repousse un peu peut-être dans les portefeuilles de projets, en sachant que la taxonomie sociale va peut-être arriver, que la CSRD va justement aider à collecter des données?
Je pense qu'il y a effectivement un peu un dilemme sur à la fois la nécessité de prioriser, donc clairement les enjeux climatiques et la réglementation hein, aujourd'hui est quand même très forte sur la dimension climatique, donc impose une priorisation là-dessus. Et en même temps, on sent bien, en particulier dans le secteur des institutions financières, qui est quand même un secteur aussi extrêmement concurrentiel, que se différencier sur le social, c'est aussi ça qui va nous faire émerger finalement par rapport à toutes les stratégies des entreprises qui s'organisent sur essentiellement les enjeux environnementaux. Donc on est un peu face à ce dilemme et je dirais qu'en fonction peut-être aussi des typologies de clients et des types de produits, la priorisation sur le S est peut-être plus facile, ce que je vous disais, donc, comme on est un gros acteur des collectivités locales, sortir les prêts sociaux, c'était, je dis pas que c'était simple, mais c'était assez évident pour nous.
Oui, peut-être en complément, je partage effectivement qu'il y a ce dilemme et je pense que le point qu'Adrienne faisait sur la pression réglementaire sur la partie climat, fait que malheureusement, c'est tellement compliqué de répondre à toutes les exigences de reporting que ça prend beaucoup de la bande passante de tout le monde. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a cette difficulté. Maintenant, c'est vrai que Amundi s'est engagé à monter une coalition de la transition juste assez tôt pour s'assurer qu'on ne faisait pas de la transition au détriment des aspects sociaux, à minima. Alors, on n'est pas encore dans l'innovation à le mettre au premier plan, mais à minima, s'assurer qu'on fait les choses de façon juste. Oui, le climat passe d'abord. Donc, quand il est important, je pense, sur le social, d'avoir les équipes dédiées qui, du coup, ne sont pas polluées par toutes ces pressions sur le climat et peuvent pousser de l'innovation sociale, que ce soit d'ailleurs en interne, hein, ne serait-ce que nos équipes RH qui, nous, on est en train de monter un pôle d'innovation sociale, en tous les cas, de le renforcer. Parce que, justement, comme tout le monde parle que du climat, voilà, il faut aussi venir renforcer les ressources sur la partie innovation sociale, que ce soit pour nos propres collaborateurs ou nos équipes dédiées qui travaillent sur des fonds thématiques autour du social. Parce que la pente naturelle en ce moment, c'est de se faire manger par les sujets climatiques qui sont évidemment très importants, mais qui prennent beaucoup, beaucoup de temps à tous.
C'est bon. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette seconde table ronde. Merci pour vos interventions enrichissantes et qui, j'espère, ont répondu à un certain nombre de questions de nos participants. Il est temps maintenant de clôturer ce webcast. Donc, je voudrais d'abord vous remercier Axel pour avoir animé ces débats, remercier nos panélistes, Adrienne, Céline, Erickson, Pierre-Antoine, et puis vous remercier tous les participants. Je crois que vous avez posé un certain nombre de questions sur le chat. Et donc, nous y répondrons dans un second temps individuellement. Il me semble que vous devez voir à l'écran, si la technique fonctionne, un questionnaire d'appréciation qui doit s'afficher quelque part en bas à droite, je crois. Voilà, c'est très important pour nous de récolter vos retours sur ce type d'événement. Donc, prenez s'il vous plaît 5 minutes pour y répondre. Je vous rappelle que le webcast sera disponible en replay sur notre plateforme pwc.fr et que vous pouvez aussi aller sur notre page dédiée aux transformations sociales au sein des institutions financières qui est également disponible sur notre site internet. Un petit rappel également des prochains événements autour du reporting de durabilité et un webcast ce jeudi 9 mars à 9h dont le thème sera « Comprendre et anticiper » le contenu du projet de normes européennes. Donc, on parle essentiellement de la CSRD, un vaste sujet pour toutes les entreprises et les institutions financières en particulier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. À très bientôt pour un prochain PwC Focus.